Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Les pieds sur terre, quartier d'été, c'est parti et c'est reparti pour toute une saison, 8 semaines de pieds sur terre. À 14h à l'antenne et dans vos podcasts, on commence toute cette semaine avec l'histoire d'une photo de classe, un de ces documents un peu doudou qu'on ressort régulièrement pour se rappeler les noms qu'on a oubliés, se moquer des vêtements, rigoler de la tête des gens. Le genre de photo qui peut aussi devenir compromettant avec les années. 3 rangs de mouflets souriants, les mains posées sur les genoux au premier rang, tous l'air de premier de la classe, droit comme des i. C'est une photo de CM2, toute cette semaine, l'année des 10 ans, une année où les enfants sont encore les rois de la cour, tout puissants, mais encore enfants, pas tout à fait la jungle du collège. Cette photo-là date de septembre 1998, elle a été prise à Ris-Orangis dans l'Essonne, entre Évry, Grigny, Corbeil et la ligne de RERD. L'école s'appelle Michel Ordener et c'est à l'époque la classe de Madame Cascaret dont il sera largement question cette semaine. C'est un CM2 mais c'est aussi une classe d'âge, une génération, la génération Y, née avec Internet, digital native comme on dit, que nous allons explorer, regarder, écouter grâce à cette photo. Car le gars au troisième rang, tout en haut à droite, c'est notre reporter Mathieu Palin, qui 18 ans plus tard est parti à la recherche de ses copains de classe. À part deux d'entre eux qu'il n'a pas lâchés, Théo et Christophe, il les a tous perdus de vue et n'en a eu pratiquement aucune nouvelle ou très vague. Il vit pourtant au même endroit ou pas loin, certains même sont à deux pas de chez lui et pourtant ils ne se voient ni ne se croisent jamais. C'est donc l'histoire d'une photo de ce qu'ils sont devenus en 18 ans, quel parcours, quelles études, qu'est-ce qui fait que celui-là s'en est sorti et pas l'autre, comment se noue une vie, quel facteur, quelle chance ou pas, quel destin se scelle entre 10 et 28 ans. Ça se passe dans une banlieue pas pire qu'une autre, là où ils ont grandi, où ils se sont faits entre les cités et les pavillons. Que sont-ils devenus? Une histoire de copains de classe racontée donc par l'un d'entre eux, Mathieu Palin. Tout de suite, les pieds sur terre, quartier d'été, bienvenue.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Quand j'y pense, il n'y a pas beaucoup de classes qui m'ont marqué. Je veux dire, vraiment marqué. Cette année de CM2, je me souviens pas d'un jour de pluie. Grand beau, même en décembre. C'était en 98, j'avais 10 ans. On avait battu le Brésil et Zidane était mon dieu.
Championne du monde ! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
La vie était belle. Notre école, elle s'appelait Michel Ordener. Mais personne n'a jamais prononcé le Michel. On disait juste Ordener. Et c'était un nom parfait pour les crosses et les tournois de rugby. On gueulait dans toute la ville. Ordener, c'est super, on va tous les mettre par terre. Et sans rien, ça arrivait souvent. On a raflé un paquet de coupes. En regardant cette photo, le premier truc qui me choque, c'est la couleur des gens. Il n'y a pas un noir. Pourtant, on est en pleine banlieue et Ris-Orangis, c'est pas vraiment Neuilly. Mais cette école, c'était comme un cocon. On vivait pas la réalité. Au premier rang, assise bien sagement, les mains jointes sur les cuisses, je reconnais Annabelle. Une petite brune avec les dents du bonheur et un beau jogging blanc. Son père était dans la classe de ma mère dans les années 70. Je l'ai jamais revue en 18 ans, pas une fois. Et j'ai aucune idée de ce qu'elle est devenue. Je sais juste qu'elle habite toujours dans le coin, avec son mec et ses deux enfants.
Salut.
Tu dis bonjour ?
C'est pas la tête à Annabelle quand même de... Enfin, on remarque que tu te souviens pas de cette page-là, mais...
Si, si, je m'en souviens, j'ai un peu d'autres classes en plus.
Ah ouais ?
Ouais.
C'est forcément un peu bizarre de se voir tellement plus vieux comme ça devant un micro.
Oh bah regarde-moi.
T'es où ?
Il essaie de draguer Julie.
Bah vas-y, trouve-moi. T'es là.
Ouais, bien joué.
Pour raconter comment on a passé le collège et tout ce qui est venu après.
Lycée, premiers amours. J'ai rencontré un gros connard. Voilà, avec qui je suis restée plusieurs années, mais bon, voilà. Et en fait, donc mes parents ont divorcé aussi quand j'avais 16 ans. C'était dur. Mais déjà, mon père, il s'est trouvé une nouvelle femme. Et donc, arrivé à mes 20 ans, il m'a dit, voilà, je déménage, je vais habiter dans le 93, tu seras toujours la bienvenue. Mais comme ça coûte trop cher de prendre une chambre en plus, voilà. Donc, en gros, ça voulait dire...
Débrouille-toi.
Voilà, il est temps de partir.
T'avais quel âge ?
20 ans.
Assez tôt, quand même, 20 ans.
Ouais. Donc, mon frère, en fait, quand mon père a dit ça, il est parti vivre avec ma mère. Et moi, à l'époque, en fait, ma mère, elle s'est mise avec quelqu'un d'autre. C'était un coup, ça marche, un coup, ça marche pas, un coup, ça marche. Et c'était un coup où ça marchait pas, donc ma mère était hébergée chez des amis qui étaient 3 ans au Maroc pour du boulot.
D'accord.
Et j'avais pas envie d'être dans une maison, ça serait encore, enfin, pas mon truc à moi. Donc lui, il a voulu suivre, et moi, par contre, j'ai voulu me prendre un appart.
Tu faisais quoi à cette époque-là ?
Alors, j'ai fini mon BTS. Après, j'ai eu tout de suite un CDI, mais dans un magasin de carrelage, parce que j'ai fait BTS MUC, Management des Unités Commerciales. Donc en gros, pour travailler dans la grande distribution. Sauf que j'avais pas envie de travailler dans la grande distribution et je me suis retrouvée dans un petit magasin de carrelage là, sur les quais de Seine à Juvisy. Et c'était la mort là-bas. La semaine, il n'y avait rien. Le samedi, c'était blindé. Je me faisais chier.
Et tu faisais quoi toute la journée ?
Bah, j'agençais le magasin, je lisais mon bouquin.
Ouais.
Voilà, c'était...
Tu regardais le temps passé, quoi.
Ouais. Avec mon collègue, on avait un jeu. Quelle couleur sera la prochaine voiture, quoi.
C'était... Ah ouais ?
Ah ouais, c'était la mort. La mort.
À 20 ans, en plus.
Ouais. En fait, c'est bien ce que je me disais, c'est pas pour moi la vente, le commerce, tout ça, j'aime pas inciter des gens à acheter un produit plutôt qu'un autre, tout ça, parce qu'on a une plus grosse marge sur telle ou telle chose.
C'était ça qu'on me demandait de faire.
Ouais. Donc là, je me suis tout de suite dit, faut que je bouge de là, et mon père, qui travaillait à l'URSSAF, n'a jamais voulu donner mon CV, sauf que là, j'ai insisté en lui disant, voilà, c'est soit je démissionne et de toute façon, j'ai même pas les allocations et je suis à rien faire, soit tu donnes mon CV. Et donc, il a fini par le faire, et je suis rentrée à l'URSSAF en CDD. Donc, c'était dans la RH, et comme après j'ai fait mes preuves, et ben, ils m'ont proposé un poste en CDI.
D'accord.
Et je venais d'avoir mon CDI, quand mon père il m'a dit, voilà, on réfléchit, on va déménager, mais on ne pourra pas avoir des chambres pour tout le monde. Je me suis dit que le mieux, c'était d'acheter. Enfin, en fait, j'ai fait des comparatifs. Je mettais autant d'argent dans une loc que dans un achat, donc j'ai acheté mon studio.
Voilà. Ah, t'as acheté à 20 ans, quoi.
Ouais.
Tout de suite...
Ouais. Déjà, à l'époque, on me prêtait 80 000 euros. Donc, à ce prix-là, j'ai dit, mais je vais m'acheter un garage. Enfin, et au final, j'ai eu une super bonne occasion. Mais bon, c'était à Juvisy, près de la gare, donc pas le super quartier. Et j'avoue que, en fait, je me suis un peu fait avoir sur mon premier achat, parce que l'immeuble, c'était... Enfin, en même temps, c'était bien, parce que je m'entendais bien avec les autres habitants, mais c'était un peu tous les cassos, quoi.
Ouais.
Et c'était que des studios. Il y avait même des familles qui habitaient dans les studios et tout. Premier étage, ils étaient 4 dans le studio. C'était des Maghrébins et il y avait surtout des Indiens dans l'étage juste en dessous. Et là, ils étaient pleins. Il y avait au moins 2 enfants, les parents et je pense même les 2 grands-parents. Enfin, ça devait être. Donc, ils étaient hyper nombreux.
Dans un studio.
Ouais. Il y avait aussi des Africains. Il y en avait une qui avait un studio à côté de moi et en bas, en fait. Et ils vivaient les portes ouvertes. Un coup, ils allaient au 3e, un coup au 5e. Mais il n'y avait rien, quoi, dans l'appart. Il y avait un matelas, une table à repasser sur laquelle ils mangeaient. Et puis, enfin, voilà, c'était... Moi, quand j'ai voulu revendre mon studio, ma nana, elle avait la porte ouverte, elle était posée sur son matelas, donc allongée, quoi. Elle était en train de manger, comme ça. Et je lui ai dit, par contre, je vais fermer la porte pour la visite. Elle a fait, non, mais c'est bon, t'inquiète, tu peux laisser ouvert. Non, mais j'aimerais bien vendre mon appartement, donc je vais fermer la porte. Mais en fait, j'ai fait comme on m'a fait, quoi. Quand le mec il est venu visiter, ah, c'est nickel, j'avais passé un coup dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, il y a du crachat, il y a des cafards. Dans les mêmes, moi j'avais siliconé toutes les aérations. On n'a pas le droit, mais sinon j'étais remplie de cafards. Enfin, c'était un peu. un peu la misère. Mais bon, c'était, ouais, voilà, c'était sympa. C'était sympa et j'en garde un bon souvenir et j'ai déménagé parce que j'ai rencontré Sébastien et je l'ai rencontré dans le RER.
Ah ouais?
Ça, c'était rigolo, ouais.
Sérieux?
Ouais.
Dans la RERD?
Ouais.
Direction quoi?
Direction Corbeil. Ah ouais. En fait, je l'avais déjà vu une fois, et puis un an après, je l'ai recroisé.
Tu l'avais remarqué dans le RER?
Ouais. Bon, après, comme on remarque d'autres personnes, quoi, mais en plus, je m'étais amusée à dire à mes copines, oh là là, j'ai eu un coup de foudre, il est trop beau, oh là là. Et donc, il s'est passé un an avant que je le recroise une nouvelle fois. Et donc là, quand je l'ai vu, alors j'avais dit à toutes mes copines, la prochaine fois que je le vois, j'y vais direct et tout, sauf que quand je l'ai vu, J'ai tracé l'autre bout du quai. Et en final, voilà, il m'a suivi un petit peu et on est monté dans le même wagon. Et là, je me suis dit, il faut que je me décide à faire un truc parce que si je le revois que dans un an, ça va pas le faire. Donc en sortant à Juvisy, lui est resté. Je lui ai écrit mon numéro sur un ticket de caisse et je me suis barrée.
Et il t'a rappelé?
Ouais.
Génial.
Il m'a envoyé un message. Voilà.
Et là, vous avez deux enfants.
Voilà.
Ouais, j'arrive.
Assis à gauche, les mains sur les genoux, avec un sourire bien crispé, c'est Christophe. Son histoire est celle d'un gamin intelligent qui a été pris très longtemps pour un médiocre et un tir au flanc. C'est devenu l'un des plus jeunes pilotes de ligne du pays.
Officier pilote de ligne. En fait, c'est le nom officiel pour dire copilote. Et copilote qui amènera par le futur, en fonction des compagnies et du besoin de pilote, la commandant de bord, après.
Cher France.
Cher France, ouais. Si tout va bien. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça. C'est assez rigolo parce que c'est vers la quatrième. J'ai fait un vol qui peut paraître banal pour 90% des gens. Sauf que ce vol banal Paris-Londres, je l'ai fait dans le cockpit avec mon oncle. Où j'ai vu mon oncle avec qui j'avais mangé la raclette la veille. Tout à fait classique en civil. La commande bord avec responsabilité, quand même avec une machine... qui coûte 50 millions entre les mains, c'est un petit détail, mais en tant que gamin, avec des boutons partout, le truc de base, avec des écrans qui émerveillent. Ah, j'ai dit, là, à partir de là, c'est quasiment sûr que je vais tout faire pour essayer d'être pilote de ligne. Mais bon, après, c'est comme toi, comme avec Théo, on n'a pas été des élèves modèles. Et le seul moment où j'ai travaillé de ma vie, c'est en prépa. En prépa, où j'ai réussi à attraper une petite prépa, une petite prépa classique, on va dire, à Fontainebleau. Et je me suis dit, ok, maintenant je me mets en internat, je me mets dans ma bulle, je vais disparaître pendant 2 ans. Et là, en prépa, je me suis mis à fond dedans. Et je me suis rendu compte que pour être pilote, il fallait parler un peu anglais. Sauf que l'anglais, j'étais pas une lumière. Alors j'avais eu des notes correctes toujours, j'étais pas en dessous de la moyenne, j'étais correct. Mais loin, loin de pouvoir imaginer être pilote. Et quand je me rendais compte du niveau qu'il fallait, il faut pas être bilingue. Mais par contre, tu fais un vol à Saint-Pétersbourg, bah, c'est sûr que c'est un russe qui va te parler, ça va être le français qui... Et le lendemain, bah, tu vas en Turquie, et puis le lendemain, tu vas en Grèce, en Espagne, en Italie. Ça, c'est parce que c'est mon réseau actuel, mais tu peux faire pareil avec un Colombien, un Chinois et un Indien. Donc à partir de là, il faut quand même réussir à s'exprimer et comprendre. Je me suis mis un coup de boost, et j'ai pris un ticket pour aller à Dublin, sans connaître personne, sans rien. Et je me suis dit, là, je vais travailler là-bas. J'ai réussi à trouver un boulot à la plonge, mais le problème c'est que ça m'allait pas parce que, à part parler tout seul aux assiettes, elle me répondait pas trop. Donc ça m'allait pas, j'ai réussi à négocier, passer barman, et puis après j'ai vu qu'il a vu que j'étais sérieux, que j'étais présentable, enfin correct. J'ai fait serveur, et là il y avait beaucoup plus d'échanges, et moi c'est tout ce que je recherchais, parler, faire des fautes, ok, mais ça les fautes je les travaillerai après, juste avoir le petit déclic. Et quand je suis revenu, ouais, j'avais vraiment bien progressé en anglais. Et là, je me suis dit, ok, avec un peu de boulot, je pourrais me présenter au concours de pilote. Et le concours d'Air France, en fait, les sélections, tu as le droit de les passer qu'une fois. C'est-à-dire que tu les passes, tu réussis, tu peux être ajourné, ils peuvent, pour n'importe quelle raison, peut-être manque de maturité, etc. Mais si ils considèrent que c'est un échec, tu es radié à vie. Ça amène les gens à se dire... Bon, je fais ma prépa, je fais mon truc d'ingénieur et je vais arriver armé à 22-23 ans, plus mature, pour avoir le temps de faire des heures de vol, beaucoup plus d'heures de vol. Sauf que moi, têtu comme je suis, même mes parents qui ont toujours été derrière moi, essayaient quand même de me faire comprendre que j'étais quand même jeune. Sauf que moi, j'ai écouté personne et j'ai pris le risque de faire cette formation à 18 ans. Je fais partie, s'il y a peut-être 10 mecs en France qui font prépa et qui s'inscrivent à 0 concours d'ingénieur, parce que je me suis inscrit à 0 concours d'ingénieur. C'était pilote, option A ou option B pilote. Tous les jours, les gens me disaient alors, ça y est, et puis, le temps il passait, et puis j'avais pas la réponse, et c'est un peu con, mais plus t'attends et tu te dis, plus t'as de chance d'avoir échoué, et qu'en fait, ils préviennent ceux qui ont échoué en dernier, et puis toi, t'es dedans, et donc ça le fait pas. Et ma mère m'a appelé, elle m'a dit la super nouvelle. Et là, je suis parti dans ma formation qui a commencé en juin 2008, qui a duré 3 ans. Et je suis sorti on peut dire diplômé, enfin lâché, on appelle ça lâché pilote de ligne, en mars 2011. Mais voilà, ouais, premier vol, c'est assez mémorable, ouais.
France Culture, les pieds sur terre.
À gauche encore, Nina porte un pull rouge et un serre-tête.
Même les premiers de la classe, quand ils passaient au tableau, on pleurait.
C'était une fille timide, le genre d'élève qui se fait jamais remarquer.
On pleurait déjà.
Notre instit cette année-là, c'était Madame Cascaré, une femme hyper sévère.
L'humiliation parfois. Hein.
Qu'on voyait, nous, comme un tyran.
Et quand elle disait, lève-toi, va au tableau, prends une craie rouge et une craie bleue, là, on savait que c'était fini.
Et Nina particulièrement, elle était terrorisée.
Elle balançait les craies comme ça, je me souviens.
Et aujourd'hui, c'est elle, l'instit en école primaire.
Alors, l'année dernière, je crois que c'est une des plus... Je pense pas pouvoir avoir une aussi belle année, c'était génial. Un groupe classe un peu comme on avait, j'étais en CM2 à Ris-Orangis au plateau. Mmh. La première année en CM1, j'étais à Évry, c'était un peu plus... J'avais des cas très très lourds. Les enfants qui venaient me voir le matin, tu sais, tuméfiés de coups et qui me disaient « Maîtresse, soignez-moi », donc là, c'était très compliqué. À la maison, ils n'ont pas d'autorité, donc à l'école, ils n'ont pas ce schéma en tête. Ils n'ont aucun code, aucun code. Ils disent « c'est dégueulasse », comme ça, en pleine classe. Ou des trucs, par exemple, il y en avait, ils me disaient « voilà, je suis chaud pour aller au tableau ». Tu vois, nous, on aurait dit ça à Madame Cascaré. On se fait, tu vois. Y a plus... Ou alors, par exemple, je donnais des devoirs. « Vas-y, ce soir, je vais chez Domino's Pizza. Voilà, je ne les fais pas. » Donc, j'ai moins aimé, mais ça a été extrêmement formateur. Et là, cette année, je suis ce qu'on appelle « Zilrep Plus ». Donc REP en fait c'est ZEP mais c'est plus zone, c'est réseau éducation prioritaire et plus c'est
le ghetto.
Voilà, c'est le ghetto. Et en fait je suis remplaçante que dans 3 écoles des pyramides en fait et je tourne. C'est-à-dire que là par exemple lundi j'ai un CP, mardi j'ai un CM2, mercredi un CE1, j'ai une classe par jour en fait. Et quand tu bosses dans ces milieux-là, les enseignants ils ont des sortes de dédommagements. Ils ont des jours de récupération, des RTT si tu préfères. Ils en ont un par mois, à peu près. Et eux, pendant qu'ils sont en repos, moi, je prends leur classe. Et donc, je fais ça sur 3 écoles des pyramides. C'est formateur parce que tu vois tous les niveaux. Mais c'est usant, quoi. Parce que pour eux, t'es la remplaçante. Donc déjà qu'avec leur enseignant, c'est difficile. Mais alors, en plus, quand t'arrives là... Donc là, je bosse l'autorité, là. Là, je vais te dire... Et même des fois, quand je suis avec des amis, ils me trouvent un peu agressive.
Ah ouais.
Parce que du coup, j'ai tout de suite réagir. Des fois, je rentre à la maison, je suis... Tu peux rien faire après, t'es complètement... Mais t'es crevée. Des fois, je tremble tellement que ça a été... C'était tendu. Bon, après, je me dis que c'est formateur et que... au moins, j'apprends. Là, j'apprends vraiment dans mon métier. Hein, là, Et même au niveau de l'autorité, j'apprends vraiment à m'affirmer.
Ah, parce que t'étais timide quand on était à l'école.
Ah bah oui. Moi, on m'entendait pas hein, en classe. J'étais très très timide. Là, non. Là, je vais te dire, même quand il faut aller voir les parents et gueuler, ou là, faut pas être timide. Hein. Et là, ce qui nous a fait flipper dans une école, c'est qu'en fait, il y a un enseignant qui a... Alors, ça peut faire sourire, mais je trouve que c'est un peu grave. Il y avait plein d'enfants avec de l'argent dans leur poche. Et donc l'enseignant, il se dit, mais je comprends pas, la coopérative, ça fait 2 mois, pourquoi ils ont cet argent-là? Et en fait, il y a un groupe d'enfants qui font des kalachnikovs en papier et qui les vendent pour de la vraie argent. Et si tu veux un viseur, tu donnes 2 euros et il te fait en papier le viseur. Tout un réseau comme ça dans l'école.
Primaire.
Primaire, t'as le mec qui surveille pour voir que les enseignants n'arrivent pas, t'as celui qui les construit, celui qui gère l'argent. Tu te rends compte, dans une école, les gamins, ils ont entre 6 et 10, 11 ans.
Et ils ressemblent à quoi, ces kalachnikovs?
C'est ce que tu vois à la télé, des vrais, mais en papier.
Et ça coûte combien?
Ça dépend ce que tu veux. Si tu veux un viseur, c'est 2 euros. Si tu veux... Alors, ils te vendent pas tout d'un coup. Il faut attendre que le mec ait le temps de faire les trucs. Mais nous, quand on a vu ça... D'ailleurs, on a fait une réunion spéciale sur le temps du midi pour en parler. Réunion kalach, quoi. Tu te rends compte un peu?
Théo est à côté de moi sur la photo, tout en haut. C'était lui le nouveau cette année-là. Il arrivait de Fleury-Mérogis, et nous, les mecs, on l'avait mauvaise parce que d'un coup, toutes les filles de la classe étaient amoureuses de lui. Après, c'était un taré de foot et on se ressemblait trop pour pas devenir amis.
Bah, tu parles 01 69 06 01 94. Ah, j'en ai des dizaines.
Toute notre scolarité, on l'a passé à dire qu'on serait prof de PS.
Tout ça pour aller au foot parce que tous les mercredis et samedis, c'était la religion, c'était foot. Hein.
Deux types en jogging du lundi au dimanche. Ça nous plaisait bien comme promesse.
Et sauf que toi, si t'avais voulu le faire, t'aurais pu le faire. Moi, mon père, il ne voulait pas que j'aille en STAPS, hein, franchement. Hein. Du coup, j'ai trouvé autre chose. Du coup, je me suis renseigné tout le temps en essayant d'être en rapport avec le sport. Et puis non, j'avais ma pote... mais ça, c'est en terminale que ça s'est passé. Parce qu'après, du coup, bah, j'ai fait kiné. Mais ça, le métier de kiné, je ne savais même pas ce que c'était, grosso merdo. J'ai ma pote Lisa qui était du coup en...
Elle était déjà en kiné.
Qui était déjà en prépa kiné. Du coup, je me suis dit, tiens, un kiné, peut-être que ça peut me permettre d'être un peu dans le sport, de côtoyer des sportifs, de travailler avec des sportifs. Ça, mais ça, c'était pas évident aussi.
C'était
hein.
En terminale, ça.
Ouais, bah, c'était en terminale au moment où il fallait remplir ces terribles fiches de je sais pas quoi, là. Fiche navette, ouais. Là, non, c'était ça. Et moi, du coup, je dis, bah écoute, il y a peut-être ça qui m'intéresse. Alors, mon père, il sait pas trop ce que c'est, et je m'en souviens, il a un rendez-vous avec ma prof de maths de l'époque, et il lui dit, bon, bah, Théo veut faire ça. Ah non, mais ça, il faut faire une prépa, Théo, il fera jamais la prépa, c'est pas possible. Il sort de là. Il me dit, c'est trop dur pour toi, prépa. Je dis, attends, les gars, je peux pas faire STAPS, je peux pas faire prépa, vous voulez m'amener 8T, je sais pas taper sur trois claviers. De quoi vous me racontez? De quoi vous me parlez? Par contre, je sais pas par quel moyen, on m'a quand même du coup inscrit en prépa kiné. Alors, je sais pas, peut-être que j'ai dû forcer la décision, je m'en souviens plus. Et donc, j'étais parti en prépa kiné après avoir eu mon bac. Et puis là, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, genre prépa, déclic, quoi. Et je m'y mets, quoi. Je m'y mets et tout de suite, résultat. Bonne note qui tombe et tout. Tu te dis, putain, en fait, t'es pas plus con qu'un autre. Quand tu les voyais les premiers de la classe à Delhi, tout ça, alors, moi, ça m'a... T'es là, tu te dis, c'est pas possible, les meufs, elles ont 18. Toi, je sais pas, t'as l'impression que t'as travaillé, tu décolles pas de 11, tu sais. Moi, je te jure, celui-là, je l'ai réussi, putain, 11. Regarde, c'était de la merde. J'en ai allé. Non, mais je te jure. Et au final, putain, je m'en souviendrai toujours. Mon premier truc de physique, je défonce tout le monde. Mais je défonce. Et toi, le mec, moi, je défonce tout le monde. Le prof de physique, il fait Théo, un génie. Le mec, il dit un génie, le mec, s'il te plaît. Non, mais tu te rends compte. Mon premier truc, mais je m'en souviens. Bref, du coup, première année, je bosse bien. Et puis là, du coup, la deuxième année, c'est juste. Tu sais que t'as complètement les capacités pour avoir le concours, quoi. Et du coup, j'ai le concours. J'ai un concours kiné à Paris, du coup. À la base, j'ai fait ce métier pour être dans le sportif. Tu t'aperçois assez vite que t'as 80% des patients, c'est loin d'être du sportif. T'as de la personne âgée, et puis t'as des personnes lambda, quoi, dans la moyenne. C'est-à-dire que les mecs, ils sont complètement débordés par le boulot, par le train de vie. Ils vont chez le kiné souvent pour le mal de dos. Lombalgie, c'est la maladie du siècle, hein. Mal au dos, tout le monde a mal au dos. Sauf que les gens, tu leur dis, monsieur, vous avez mal au dos tout simplement parce que votre dos, il est pas musclé, il y a rien qui protège votre dos. Faut juste bouger un peu, faire un peu de sport. Donc au final, tu parles quand même de sport, mais c'est pas la clientèle que tu t'attends, quoi. Et oui, je me suis souvent dit, ah, si j'avais été prof de sport, tu vois, tu peux avoir des rêves. D'ailleurs, des fois, je le dis avec mon père, putain, j'aurais bien aimé. Ouais.
Avant de contacter les gens, je les regarde longtemps sur la photo et j'essaie d'imaginer ce qu'ils sont devenus. Samuel est assis devant, mort de rire. Je me souviens de lui comme du rigolo de la classe, ni fouteux, ni artiste, le genre à faire des tours de magie à la récré. Et je me souviens des nems de sa mère aussi, qu'on mangeait à la fête de l'école. Quand je l'ai appelé, il m'a envoyé son adresse et j'ai réalisé qu'on habitait à 200 mètres l'un de l'autre, sans s'être jamais croisés. Alors j'y suis allé à pied. Et quand je lui ai parlé de mon année dorée de CM2, il a rien compris.
C'est marrant parce que je garde pas un excellent souvenir non plus de ces années primaires, collège.
Ces années-là, elles ont pas été cool pour lui.
J'ai toujours trouvé que les enfants entre eux, ils étaient méchants en fait.
Et qu'est-ce que t'as fait après ?
Alors après, donc j'ai fait mes années de collège, je suis allé au lycée Corot à Savigny.
Ah, il était bon ce lycée.
Ouais, c'était un bon lycée, ouais.
Comment t'avais fait pour te retrouver là-bas ?
J'avais fait russe parce qu'en fait, mais justement ma mère, elle avait connu l'expérience Camus où en fait on lui a imposé, entre guillemets, de j'aille à Camus, et elle a dit c'est hors de question qu'il aille à Brassens, qui était le lycée de secteur.
Qui était le pire d'Île-de-France.
Qui là, pour le coup, là c'était vraiment la zone, mais bon, tu me diras... Ça n'empêche pas. Et donc, il fallait que je fasse une spécialité qui n'existait qu'à Corot. Et c'était le russe. Donc, j'ai fait une année de russe. Et tout ce dont je me souviens, c'est cacra la chaussidiette, qui veut dire je suis bien assis, ce qui ne sert strictement à rien. Ah, cacra la chaussidiette. Et donc, non, c'était bien. En plus, c'était un bon lycée où j'apprenais des choses intéressantes. En plus, j'ai pu faire mes propres choix parce que j'ai choisi de faire lettres. J'ai fait une année de prépa à Corot encore, prépa lettres. Ensuite, j'ai fait une fac de géo. J'ai fait une licence de géographie. J'ai fait un master 2 à la Sorbonne en gestion des risques et des crises. Après, j'ai commencé à bosser tout de suite.
Et c'était quoi le lien entre prépa lettres, fac de géo, gestion des crises?
C'est du pragmatisme. Non, c'était des sujets qui m'intéressaient, les métiers de la sécurité et sûreté. Parce qu'aussi, j'étais pompier à côté, sur ma commune.
À Arris?
Arris, ouais.
Tu l'es toujours?
Je le suis toujours. Ça fait 10 ans. Et là, depuis 2 ans, je travaille dans un acronyme un peu long qui est secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Donc, c'est un service du Premier ministre qui s'occupe des sujets de défense et de sécurité. Voilà. Ça va du plan Vigipirate, qui est l'un des volets les plus visibles de notre secrétariat, tout ce qui est garde nationale, la protection des sites industriels sensibles, la cyberdéfense. Donc, c'est très très large et on travaille à un niveau interministériel pour coordonner, animer ces problématiques-là. En fait, quand t'es un mec de banlieue et que tu viens travailler à Paris et qu'ensuite t'es amené à travailler en costume cravate, en fait t'es un caméléon. Parce que t'as tous les codes de la banlieue, que tu le veuilles ou non, les mecs qui parlent dans la RERD, tu sais que tu comprends ce qu'ils disent. Et puis en même temps, lorsqu'il faut tenir une réunion, t'arrives à t'exprimer convenablement, t'arrives à faire des phrases structurées, etc. Mais ce qui est marrant, en fait, c'est ce que je me dis, c'est que nous, on a grandi dans le rap, tu vois, la musique hip-hop. Bon, j'en écoute de moins en moins, mais ça m'arrive toujours d'écouter soit des vieux, soit même des plus récents albums de rap. Et en étant en costume cravate, en allant...
Tu te dis, si les mecs, ils entendaient ce que j'écoute dans le métro.
Exactement, ils diraient, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et... Ça dénote. Après, moi j'aime bien ça, j'aime bien la culture hip-hop, donc. Mais cela dit, je l'écoute, mais je suis pas sûr de la revendiquer. Ben, en tout dépend. Cas, pas à la machine à café.
Que tous les faux semblants de la farce humanitaire aboutiraient au néant. C'était le premier de nos pieds sur terre quartier d'été avec la photo de classe, le premier épisode de cette série de Mathieu Palin, réalisé par Marie Placé et diffusé pour la première fois le 22 décembre 2016. Merci à Théo Hydrac, à Christophe Fabre, à Nina Zambrano, à Maëva Malatrès, Samuel Donikian, Camille Sage, Romain Bellocine, Kevin Waguet ou Waguet, Lucille Herbert, etc. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, ça ne change pas. Et c'est Zoé Marie Houllier, notre stagiaire. Si vous voulez des nouvelles des personnages que vous avez entendus, rendez-vous sur le site des Pieds sur Terre à la page de cette émission, Les Pieds sur Terre, quartier d'été. It's your tongue, guru. Crazy madness, it's all I see out my window. It doesn't matter who's the president, yo. I hate to tell you, but slavery is still in effect.